Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Deux ouvrages aujourd'hui, une fête que nous offre Jean-Yves Lorichès à la veille de ses vacances. Voilà de quoi remplir votre panier pour des lectures cet été, que ce soit à la mer, à la montagne ou à la ville, ma foi, pourquoi pas. En tout cas, un premier ouvrage qui parle de Provence. Donc peut-être irez-vous en Provence, poussé par la curiosité. Un autre qui va nous parler d'un peintre que vous connaissez tous, il s'agit de Bruegel, Bruegel l'Ancien. Et ce sont deux ouvrages magnifiquement édités. Alors on parlera d'abord de Jean-Yves Lorichès, mais nous parlera plutôt d'abord de Retour à Opédette, puisque c'est le premier ouvrage qui a été édité depuis le confinement, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
C'est ça. Voilà. Par les éditions Le Temps qui fait, et c'est vrai qu'on salue toujours la qualité de ses impressions et de ses choix. Alors, il s'agit donc de Retour à Opédette. Avec vous, Jean-Yves Lorichès, tout semble simple de prime abord. Alors, il y a un village quasi abandonné en Haute-Provence, une photo de quelques maisons au toit de tuiles romaines. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cela, parce qu'il existe dans ces régions des villages abandonnés.
Alors, effectivement, ce village d'Opédette, je m'y suis arrêté à l'été 1980, au cours d'une randonnée en solitaire, sur le chemin des grandes randonnées. Donc. Et il m'a laissé le souvenir d'un village abandonné. Avec le recul, je ne suis pas complètement certain qu'il l'était totalement. Mais c'est le souvenir qu'il m'a laissé, parce que je suis resté un petit peu à la périphérie du village. Et surtout, j'ai pris une photo, une diapositive à l'époque de ce village, que j'ai retrouvée récemment et qui est sur la couverture du livre.
Qui est sur la couverture.
Et qui montre un village qui semble totalement désert, sous l'angle où il est pris.
Oui.
Et donc cette image coïncidait avec le souvenir que j'en avais, et je pense qu'à cette époque, effectivement, il ne peut y avoir un grand monde à Opédette.
Et je vous imagine tout seul, vous randonneur, déambuler dans un village vide, que ce soit en Provence ou en Espagne, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, et les impressions que vous pouviez en avoir, parce que les lieux, d'une certaine manière, sont toujours hantés.
Oui, oui, c'est l'histoire d'ailleurs d'une hantise, hein, ce roman, d'une hantise suscitée par cette photographie, et cette photographie donc retrouvée qui elle-même ranime donc le souvenir de ce village un peu fantomatique.
Oui. Oui, parce que la disparition d'un village, c'est un peu la mémoire collective qui s'en va d'une certaine manière. Hein.
Alors c'est la Haute-Provence, hein, c'est cette Provence dont a si bien parlé un romancier que j'aime énormément qui est Jean Giono. C'est cette Provence âpre, cette Provence dont Giono disait qu'elle semble sortir à peine du déluge, et qui n'est pas du tout la Provence plus amène, plus riante, hein, de la basse Provence.
Et il est capable d'ailleurs de décrire les deux aspects.
Oui,
hein.
À fait. Mais il a une préférence quand même pour les grands déserts et les villages morts. Il y avait beaucoup de villages morts en Haute-Provence, souvent d'ailleurs des villages qui avaient été abandonnés après la guerre de 14-18. Parce que aucun homme n'était revenu, et souvent les femmes et les enfants s'étaient réfugiés pendant la guerre dans d'autres villages où étaient souvent d'autres familles. Et ainsi, il y a des villages qui n'ont jamais été réintégrés. Il y a aussi des villages qui sont devenus totalement déserts suite à des épidémies de choléra
à
la fin du 19e siècle. Donc, et ça va bien évidemment avec l'âpreté de ce pays.
De ce pays, oui, où de toute façon les cultures sont pauvres. Enfin, il y a des champs de lavande magnifiques, mais ça ne suffit pas à nourrir un homme. En tout cas, maintenant, il y a peut-être pire, il y a le tourisme. je ne sais pas. Oui. Alors, c'est un village perdu, oublié, et pourtant un lieu où se croisent des individus, je dirais même des destins, à des moments différents. Alors, il y a des faits, il y a des réalités, il y a des suppositions, voir des rêves, des souvenirs. Et tout cela s'égrène tout au cours de votre roman. Alors, Bon, il y a le travail de la mémoire. Comment vous la considérez, cette mémoire?
Alors, effectivement, il y a cette mémoire qui est suscitée par l'image, donc les photographies. J'ai vécu cela. Le point de départ est autobiographique. Hein. La photo, c'est moi qui l'ai prise.
Et le personnage.
Le personnage, évidemment, je lui prête quelque chose de moi, et en particulier...
Il écrit, il est randonneur, il a fait
cette randonnée. Ouais. Il a retrouvé lui-même, effectivement... Donc, 40 ans après, à peu près, cette diapositive, et il en a subi une sorte de choc émotionnel qu'il ne s'explique pas, et qui pour moi est le point de départ de l'écriture, et qui pour lui est aussi le point de départ alors de toute une série effectivement de phénomènes qui passent aussi par le rêve, qui est aussi peut-être une autre dimension. Il y a la mémoire, il y a aussi le rêve, les deux se mêlent. Et tout cela finit par investir cette image et finalement le village réel de tout un ensemble d'émotions, de hantises, qui finissent par mettre en jeu aussi d'autres personnages. Voilà.
Oui. Alors d'ailleurs, justement, moi j'avais lu que la mémoire était liée soit à des sensations, soit à des émotions, quand ce n'était pas une mémoire, je dirais, scolaire, où il faut apprendre, et que la mémoire liée à des émotions était la plus forte. Or, ce personnage central, je dirais, au départ, a eu une émotion quand même.
Oui, oui. Alors, il a eu une émotion, mais l'émotion dont il se souvient, c'est l'émotion de ce village désert, dans un paysage magnifique et âpre en même temps, dans cette Provence, donc un peu écrasée par le soleil, cette Haute-Provence.
Où la tragédie peut éclater.
Mais où la tragédie peut éclater. Ouais. Et la tragédie, elle n'est pas de l'ordre de la mémoire, elle intervient par le rêve. Hein, puisque, sans raconter tout le détail de l'histoire, mais effectivement, c'est un rêve qui est suscité par l'image et qui, lui, contient d'une manière latente quelque chose qui est de l'ordre d'une possible tragédie qui aurait pu avoir lieu ou qui a peut-être lieu dans ce village.
Est-ce que ce n'est pas la source de tout écrivain, un fait réel et puis après des suppositions, est-ce que ce n'est pas ce qui se passe finalement?
Oui, je pense qu'on écrit, enfin en tout cas ce type d'écriture romanesque qui part d'un point de départ qui peut être une image, qui peut être un lieu, qui peut être un souvenir. Ce type de littérature, ce type de roman est animé par le désir de savoir, de découvrir, par une forme de quête.
Presque d'enquête.
Et, voilà, de quête et d'enquête, les deux, hein, tout à fait. Quête parce qu'il y a une dimension existentielle assez forte. Hein, il y a des enjeux qui sont de l'ordre de la vérité, du rapport à soi-même, etc. Et puis une enquête aussi parce qu'il y a des faits, effectivement, sur lesquels on s'interroge, qui ont peut-être eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu, qui vont déterminer à aller voir sur place ce qui s'est peut-être passé, etc. Et là, on est plutôt effectivement dans le registre de l'enquête.
Et le seul personnage féminin est très intéressant. Oui. C'est une femme meurtrie et en même temps une forte femme, indépendante.
Oui, Viviane.
Viviane. Elle veut une liberté totale. Bon, on ne connaît pas l'antécédent. On sait qu'elle a subi une blessure sentimentale, probablement. Et là, elle arrive dans un village et elle cherche à trouver une paix. Et alors, c'est vrai que là aussi, vous nous donnez cette sensation de vie paisible dans ce village. Où de se retrouvent des gens, que ce soit le randonneur, que ce soit l'unique habitant, que ce soit elle, vont retrouver loin de la ville la paix qu'ils recherchent. Est-ce que c'est comme ça que vous l'entendez?
Oui, alors en tout cas, l'histoire qui est racontée au début, parce qu'en fait, il y a un dédoublement du personnage féminin. Hein, il y a un personnage qu'on peut dire imaginaire, à l'intérieur même de la fiction, et puis il y a un personnage réel. Le personnage imaginaire s'est imposé très vite. C'est donc cette randonneuse qui arrive dans ce village.
Qui a été vue furtivement.
Qui a été, voilà. Oui. Et cette histoire avec ce berger, etc., donc, qui s'installe un temps dans ce village, puis qui finalement en repart dans des conditions que je ne dirai pas pour ne pas déflorer le livre. Mais ce personnage-là, effectivement, il est suscité par la diapositive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette photographie de ce village vu un peu au-dessus avec ces toits qui semblent couvrir on ne sait pas quoi, etc., on se dit qu'est-ce qui a pu se passer. Et donc, peut-être s'est-il passé cette rencontre avec ce personnage imaginaire. Et puis il y a un dédoublement effectivement parce qu'il y a la compagne et l'épouse du narrateur,
que
Viviane,
l'on trouve ultérieurement.
Voilà, et qui est un personnage qui au départ n'était pas destiné à avoir autant d'importance.
Oui.
Et qui en a pris progressivement et de plus en plus et jusqu'à la fin de l'histoire.
Et qui encourage l'écrivain.
Qui encourage l'écrivain à écrire et qui en même temps va se trouver plus que je ne l'aurais imaginé moi-même au début, partie prenante de l'histoire même qui a pu se dérouler dans ce village. Voilà.
Parce que bon, il va se passer des événements. Alors évidemment, il y a l'événement fictif ou pas. On ne sait pas ce qui s'est passé au niveau de cette jeune femme, donc qui apparemment a existé, mais qui a vécu dans l'imaginaire de l'écrivain. Et puis, il y a également donc, cet écrivain qui part à la recherche et qui va vivre des choses un peu analogues. Et alors, il y a ce passage, évidemment, ce passage dans les gorges que l'on connaît si bien dans ces pays-là. Et c'est magnifique, en règle générale, c'est rocailleux, et ça peut être violent, on l'a vu. Hein. Et alors, je me suis dit, mais c'est symbolique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est Alice au Pays de Merveilles ? Est-ce que c'est passé dans le monde des morts ? Ou est-ce que c'est une naissance, peut-être ?
Alors, c'est effectivement les gorges d'Opedette, que l'on trouve d'ailleurs dans un très beau poème de René Char, hein, que j'ai placé en épigraphe. Et où il est question aussi d'orage et de foudre, comme dans le roman. Ces gorges d'Opedette sont un lieu assez fascinant et qui attire d'ailleurs maintenant du tourisme dans le village d'Opedette, mais qui s'est imposé à moi effectivement comme le lieu où quelque chose a pu se passer. Voilà. Pour le personnage féminin, la randonneuse du début, et puis finalement pour le narrateur et aussi pour Viviane. Donc c'est vraiment le lieu où tous les fils, finalement, assez emmêlés hein, de cette histoire se rejoignent. Et évidemment, l'écriture, vous parliez tout à l'heure du fait que le narrateur est un écrivain, enfin devient écrivain à cause de cela, parce qu'en fait, il n'est pas écrivain, il est archiviste. Oui. Ce qui est important pour moi, parce que l'archiviste, c'est quelqu'un qui a constamment affaire avec le passé, avec les traces, et c'est quelque chose à quoi je suis très sensible. Mais c'est un archiviste qui devient écrivain un peu par, non pas par hasard d'ailleurs, mais par nécessité, confronté justement à cette image et à la nécessité d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer.
Oui. Alors justement, on a l'impression qu'il n'est pas sous influence, c'est pas le terme. Il y a une sorte d'emprise sur lui, finalement.
Oui, tout à fait. Il y a une emprise, bon, il y a déjà une emprise de l'image au début. Et puis, en réalité, on va s'apercevoir progressivement que Viviane, finalement, a aussi sur lui une emprise et le guide
par
d'une certaine
manière.
Par son insistance, dont on ne peut pas comprendre les raisons pendant tout un temps, on ne les comprend qu'à la fin, mais par son insistance, elle le guide aussi vers ce lieu où tout converge.
Et est-ce que cette insistance, cette volonté de savoir, de savoir ce qui s'est passé pour cette jeune femme qu'il avait vraiment entreaperçue, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité ?
Oui, il y a la notion de culpabilité était très importante pour moi au début de l'écriture de ce roman parce que pour moi, il y avait l'idée que, mais finalement c'est quelque chose qui a évolué par la suite parce que l'intrigue elle-même a évolué en cours d'écriture, mais il y avait chez le personnage l'idée que peut-être lorsqu'il était passé dans ce village, quelque chose, il avait été témoin de quelque chose et que au lieu d'en témoigner, il avait regardé ailleurs et laissé ça derrière lui. Bon, en réalité, les choses, l'intrigue a évolué un peu différemment, mais il en est sans doute resté
alors,
quelque chose.
Vous êtes machiavélique, voilà. Machiavélique, parce que automatiquement, le lecteur, moi en l'occurrence, je me suis dit, on entre dans une sorte de polar.
Oui, il y a quelque chose
et
à s'étendre.
On pense c'est cela, l'enquête. Mais non, mais c'est encore autre chose.
Mais c'était finalement autre chose.
Oui, c'est. Alors, il y a cette recherche donc, du narrateur, écrivain, sous une sorte d'emprise. Moi, j'aimerais bien que vous me lisiez un extrait que vous pouvez choisir si vous le souhaitez.
Non.
Alors, ce qui lui arrive à lui et qui va être, on peut le dire un petit peu, l'écho de ce qui s'est passé pour elle. Alors, page 86-87, donc il s'agit de Retour à Opédette, un extrait lu par Jean-Yves Lorichès.
Je marchais ainsi une heure environ, attentif à la végétation des rives et aux formes capricieuses des roches érodées. Nulle part ailleurs ne se faisait sentir à ce point l'action du temps, comme si le temps lui-même avait coulé dans ses gorges pour les creuser. Toute l'histoire de cette terre se lisait à même les parois comme dans un livre. Cependant, l'étroite bande de ciel que je pouvais apercevoir du fond des gorges ne m'avait pas permis de me rendre compte que le temps avait changé. C'est l'obscurité insolite qui m'alerta. Je levai les yeux et vis que le ciel clair du matin était à présent encombré de nuages noirs qui bouchaient le haut des parois hérissées de buissons et de petits arbres. Je devais être à peu près au milieu des gorges et il était trop tard pour revenir sur mes pas. Je n'en avais d'ailleurs nulle envie. J'étais au contraire très intéressé par l'approche de l'orage qui, je n'en doutais pas, allait sans tarder s'abattre sur moi. Je n'étais pas pour autant inconscient et lorsque je sentis les premières grosses gouttes s'écraser sur mon visage, je hâtai le pas vers un abri rocheux que j'avais aperçu au-dessus du torrent et qui pourrait me protéger à la fois de l'orage et de la montée des eaux. Au moment où je l'atteignais, un éclair illumina le haut de la paroi opposée, suivi d'assez près par un craquement de tonnerre très sec mais qui se multiplia en écho dans les gorges. L'orage était bien là. Presque aussitôt, un lourd rideau de pluie s'affala devant l'ouverture de l'abri. Je m'assis un peu en retrait et restai là, exalté tout à coup comme je l'étais enfant à la campagne, quand les grands orages d'août me retenaient à la fenêtre, que je ne fermais qu'à regret, pour obéir à mes parents, restant le nez collé à la vitre, contemplant le jardin bouleversé pendant que l'électricité sautait et qu'on allumait des bougies dans la pénombre. De ce qui arriva ensuite, je n'ai qu'un souvenir confus. Je crus voir, à travers la pluie, une silhouette qui courait en contrebas sur la berge. Je dus me lever et lui crier de venir se mettre à l'abri, mais dans le fracas du tonnerre, elle ne pouvait m'entendre. Et je ne savais même pas si le moindre son sortait de ma gorge, comme dans ces cauchemars où l'on est impuissant à alerter d'un danger ou à appeler au secours. Je me souviens seulement qu'elle ressemblait à la jeune femme de mon rêve, puis il y eut un éclair plus aveuglant que les autres, en même temps qu'une violente déflagration, et je fus projeté en arrière contre la paroi de roche.
Oui, alors dans ce court extrait, on voit beaucoup de choses finalement. Bon, d'abord, il y a une belle description de ces lieux. La Provence, pour moi, c'est la rocaille, c'est ces couleurs jaunes, cette beauté crue, je dirais. Il y a le temps aussi, le temps qui change, le temps qui donne une urgence. Et puis, il y a aussi ce danger latent et toujours présent. Et puis, l'importance des sensations que vous faites éprouver, justement.
Alors, il y a effectivement là, c'est vrai, quand j'écris ce genre de passage, j'ai vraiment moi-même l'épreuve des sensations. Enfin, j'écris cela à partir de souvenirs. Oui. Pas obligatoirement dire uniquement de ces gorges-là, mais d'autres gorges. En fait, je crois que chaque lecteur peut aussi s'y retrouver. Voilà, se souvenir à la fois des odeurs, de la fraîcheur, du contraste avec la chaleur. Et puis, effectivement, c'est donc cette roche, cette végétation petite, hein, mais en même temps très, très vivace de ces pays.
Et très odorante.
Et très odorante.
Oui.
Et puis, effectivement, ces bascules brutales de la météorologie, ces climats de violence qui sont les climats méditerranéens.
Ce danger qui pèse.
Voilà, on peut passer très vite du ciel bleu à l'orage. Et alors, en même temps, dans ce passage-là, il y a aussi une espèce de double fond, en quelque sorte. Il y a tout ce qui est du domaine des sensations très, très réelles, très, très vraies, très à fleur de peau. Et puis, il y a aussi ce que l'orage déclenche, c'est plutôt du domaine alors de la vision. Hein.
Mmh.
Et là, c'est évidemment quelque chose qui est très important dans le roman, c'est aussi qu'il y a toute une part d'irrationnel que je n'ai pas cherché à rationaliser moi-même.
Oui.
Est-ce que s'agit-il vraiment d'une vision ? S'agit-il d'un personnage réel qui est lui aussi perdu dans cette gorge au moment de l'orage ?
Et qui vous rappelle, évidemment.
Mais qui, évidemment, renvoie à la fois à l'image initiale, à la photographie initiale, et surtout au rêve qu'a fait le narrateur. Et encore aussi, on n'en a pas parlé, mais à ce fait divers qu'il a vu dans le journal d'une jeune femme disparue et d'un avis de recherche. Donc tous ces éléments-là se interfèrent entre eux pour créer un climat effectivement d'incertitude par rapport à la réalité des choses.
Alors oui, à plusieurs reprises, il y a une forme de rencontre parce que il l'a rencontrée dans ce village et finalement ils ont vécu, on pense qu'ils ont vécu la même expérience à plusieurs années de différence,
finalement. Un peu décalé, mais effectivement.
Un peu décalé.
C'est cette notion de trace, hein, cette idée.
Et elle, c'est peut-être une trace, ce qu'il voit, finalement.
Alors voilà, c'est ce qu'elle lui dit, d'ailleurs, hein, que peut-être le passage des êtres dans certains lieux qui ont un caractère un peu magnétique, comme beaucoup de ces lieux de Haute-Provence, ce passage peut-être laisse des traces dans le temps, l'idée d'une trace dans le temps. Qui ne soit pas une trace matérielle, comme une empreinte dans la terre ou dans la roche, mais qui soit plutôt une trace dans l'air, et ressuscitée par un effet peut-être électrique, parce que l'orage, c'est la foudre qui s'abat, effectivement, et les phénomènes électriques sont assez fascinants. Bon, moi, j'ai toujours été assez sensible à un certain fantastique du 19e siècle, hein, où d'ailleurs on mélangeait souvent le fantastique pur avec aussi certaines réalités scientifiques qu'on découvrait à l'époque, comme par exemple les phénomènes électriques.
Bien sûr, bien sûr. Jean-Yves Lauruchet, vous avez proposé comme pause musicale, quoi donc ?
Alors ça, c'est pour ouvrir au livre suivant.
Et oui,
un morceau de la Renaissance
qui va nous
amener vers Bruegel.
Mais c'est une musique de tous les temps.
Absolument.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà un instant musical avant de reprendre notre entretien avec Jean-Yves Lorichesse. Et nous parlons toujours de cet ouvrage intitulé « Retour à Oppédette ». C'est un roman, en fait. Un roman qui fait se promener le lecteur, enfin qui fait se promener et qui le met dans un état de tension. Vous aimez bien faire travailler les lecteurs, finalement.
Oui, oui, oui. Moi, j'aime, en tant que lecteur, j'aime bien avoir un peu de travail à faire.
Voilà. C'est ça, on n'est pas
mais,
passif.
Voilà, non, j'aime bien les lecteurs actifs, j'aime bien être actif moi-même. Bon, ce qui ne veut pas dire que j'ai obligatoirement une approche intellectuelle de ce que je lis, mais j'en ai une approche, disons, active. Voilà, c'est le mot.
Oui.
Et donc, dans mes propres livres, moi-même, lorsque j'écris, je suis, comme je disais tout à l'heure, dans une recherche, dans la recherche de ce qui va se produire, parce qu'une fois de plus, ça n'est pas écrit d'avance.
Bien sûr.
Et donc là, je crois que ça s'est produit aussi. Et d'ailleurs, l'histoire, je le disais tout à l'heure, a évolué en cours d'écriture.
Mmh. Voilà. Oui, quand vous dites que ce n'est pas écrit d'avance, finalement, je m'interroge. Qu'est-ce qui est écrit d'avance dans la vie ? Il n'y a pas grand-chose. Hein.
Mais justement, je pense qu'écrire ainsi nous rapproche de la vie, alors que les romans qui sont composés
ficelés,
d'une manière beaucoup plus rationnelle à partir d'un plan initial peuvent être des romans extrêmement réussis, hein, c'est pas la question, mais n'ont peut-être pas cette dimension de liberté, peut-être de naturel, qui est le propre de la vie, et d'inattendu.
Mmh. Aussi. D'inattendu aussi, oui. Mmh. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'inattendu dans nos vies. Le style, on le reconnaît entre tous, votre style est épuré. Mmh. Vous n'aimez pas d'abord... Pas de phrases très longues, finalement. Je pensais, parce qu'on fait souvent référence à Claude Simon quand on parle de vous, mais il me semble que les phrases de Claude Simon sont plus longues.
Beaucoup plus longues. Là, je n'ai pas du tout cherché à rivaliser avec Claude Simon sur la longueur des phrases, qui d'ailleurs serait très difficile.
Bon, alors, moi,
j'aime beaucoup en tant que lecteur, mais j'en suis assez éloigné en tant qu'auteur. Oui,
oui. C'est ça. Et c'est épuré et chaque mot semble avoir été... soigneusement choisi. Bon, je pense que pour un écrivain, c'est quand même... Bon, alors, c'est ça. Et c'est... Même entre les personnages, finalement, il y a peu, sinon pas de dialogue.
Alors, il y a peu de dialogue, effectivement, même s'il y en a un petit peu plus dans ce roman ou dans le précédent que dans les tout premiers. Enfin, je me suis rendu compte à un moment que mes personnages qui avaient pratiquement pas de discours direct. J'en ai introduit un petit peu, mais très peu, parce que en réalité, ce qui prime pour moi, c'est quand même le récit et la description. Et bien sûr, mes personnages parlent, ne parlent pas énormément non plus, mais ils ont des échanges. Assez souvent, ces propos, ces paroles sont pris dans le texte lui-même, donc sur le mode du discours indirect, plus rarement, effectivement, en discours direct. Parce qu'il y a quelque chose un peu d'hétérogène, si vous voulez, dans la parole rapportée directement, qui, pour moi, rompt le flux, le continu, ce que un écrivain et par ailleurs critique aussi, que j'aime bien, qui s'appelle Jean-Paul Gout, a appelé la fabrique du continu dans la prose. La prose, c'est ce qui va en avant, toujours. Et pour moi, la prose est interrompue et un peu sa continuité est un peu cassée par le dialogue.
Oui, trop abrupte.
Voilà, oui.
Oui. Quant à la construction, elle me paraît assez complexe parce que je me suis posé la question, est-ce que vous faites un plan au départ ? Est-ce que vous avez une idée de ce que... Alors, je sais que vous êtes partie de cette photo puisque cette photo en couverture est la vôtre et que vous avez retrouvée. Et comment avez-vous procédé ?
Alors, il y a des plans partiels, c'est-à-dire... un petit peu une orientation. En fait, ce que j'ai commencé par faire, c'est par raconter les circonstances dans lesquelles mon narrateur retrouve cette photographie. C'est-à-dire ce qui était en fait le plus proche de l'origine même de l'écriture et donc de ce que j'avais vécu moi-même.
Mais ça, on ne le trouve pas en début d'ouvrage.
Et non, justement. Et c'est là que c'est quelque chose d'assez particulier à ce roman-là. C'est qu'effectivement, l'ordre des parties a changé ensuite. Mmh. Et ce qu'on trouve au début du roman, au départ, ne l'était pas. Et ça a changé parce que, justement, j'ai voulu faire aussi quelque chose de différent, peut-être, de ce que j'avais fait dans des romans antérieurs qui sont aussi des quêtes, je pense, La Loge de Mer,
Arcadie,
Un passant incertain, L'hiver en Arcadie,
oui.
qui étaient des romans très linéaires, hein, dans lesquels vraiment l'écriture suivait le fil de l'intrigue en train de s'inventer.
Oui.
Et ici, par exemple, je n'ai pas voulu que mon personnage aille tout de suite ou trop vite sur les lieux de la photographie, ce qui, dans un premier temps, avait été ma tentation. C'est-à-dire que voilà, je découvre cette photographie, il découvre cette photographie, et elle le hante, et donc il va aller voir sur place qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, les choses ont évolué différemment, d'abord parce que j'avais envie de faire quelque chose de différent. Je crois que on est aussi dans le... À la fois, il y a une continuité dans ce qu'on écrit, je crois que c'est nécessaire, parce qu'on a son propre monde et on l'explore, mais on cherche aussi à ne pas écrire toujours le même livre, malgré tout. Donc, j'avais envie de quelque chose qui soit un petit peu plus complexe, peut-être, dans l'enchaînement des parties, et moins linéaire. Et donc, on commence par cette histoire de cette jeune randonneuse qui arrive dans ce village désert, et dans un premier temps, il n'est absolument pas question, effectivement, de la photographie, alors qu'elle est à l'origine de l'écriture.
Oui, et elle réapparaît un bref instant au milieu de votre ouvrage, et puis à la fin. Et c'est très curieux, parce que là aussi, il y a une forme d'abolition du temps.
Oui. Alors ça, j'ai toujours aimé les boucles. C'est vrai, je suis assez sensible. J'aime beaucoup, par exemple, on va prendre directement un exemple majeur, c'est À la recherche du temps perdu. C'est-à-dire ce livre voilà, qui aboutit au temps retrouvé, hein, où le livre lui-même commence à s'écrire ou à se concevoir. Donc ces effets de boucle, j'y suis sensible parce qu'il me semble qu'ils disent beaucoup sur ce qui est pour moi la littérature fondamentalement, c'est-à-dire la création d'un monde à part, d'un monde quand même, bien sûr, qui est plein de connexions avec notre réalité sensible, mais qui est quand même un monde autonome. Et je pense par exemple à mon premier roman Place Monge qui commençait Place Monge,
oui.
mais en 1917,
17,
avec
oui.
la visite de mon grand-père revenant du front dans cet appartement de la Place Monge, et qui finissait Place Monge, mais des dizaines d'années après, c'est-à-dire en fait à mon époque, à moi, revenant sur ces lieux. Et là, on a quelque chose d'un petit peu analogue, alors que c'est, pour le coup, une fiction qui n'a pas du tout de ressemblance avec mon premier roman.
Mais vous savez, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ça donne envie au lecteur, enfin, en tant que lectrice, c'est ce que l'envie de revoir les choses, justement, des événements, avec ce recul du temps, de reconsidérer.
Oui.
Finalement.
Oui, il y a cette idée que le temps n'est peut-être pas finalement si linéaire qu'on le croit. Alors il l'est d'une certaine manière, le temps chronologique est incontestablement linéaire, mais le temps affectif, le temps de la mémoire,
oui.
lui, ne l'est pas du tout. Et on revient et on repasse, et on est plutôt dans des spirales,
oui.
ou dans des boucles, dans des spirales, que dans une linéarité.
Oui.
Et c'est je crois, cela que j'exprime par ces retours sur certains lieux à des moments différents.
Et puis à un moment donné, le temps passé, le temps présent se rejoignent, tout comme le réel et l'imaginaire. Et voilà, et le lecteur, il a rencontré à la fois le réel et l'imaginaire, et puis il a emboîté le pas de l'écrivain, dont c'est le travail. En fait, le travail de l'écrivain, c'est ça, non? Le réel et l'imaginaire.
Oui, c'est de tisser les deux, je crois.
Oui. Il y a une phrase pour terminer que j'aimerais que vous m'expliquiez. Du moment que tu as vécu ce que j'avais oublié, je n'ai plus besoin de m'en souvenir.
Ça, c'est oui, c'est une phrase qui à moi-même, est un peu énigmatique. Mais je crois que le personnage de Viviane est un personnage qui a pris de la profondeur et de la complexité au fur et à mesure, et surtout vers la fin de l'écriture. Et effectivement, c'est un personnage qui a vécu des choses. Qui se révèle en partie, mais seulement en partie à la fin.
Mais qu'elle n'a peut-être pas envie de...
Mais qu'elle ne va pas raconter, dans le fond, même à cet homme dont elle est si proche. Mais il y a cette idée aussi de deux êtres qui sont très proches et qui, en même temps, ont des passés différents et qui resteront inconnus, probablement.
Leur jardin
voilà,
secret,
voilà,
tout
voilà.
simplement.
Et donc, il y a chez elle cette manière d'assumer le fait que le narrateur, là, en quelque sorte, est délivré de la nécessité de raconter certaines choses, dans la mesure où lui-même a vécu quelque chose d'analogue, mais qui n'est pas évidemment la même chose.
C'est intéressant, l'écrivain comme délivreur,
oui.
Je ne sais pas, non,
oui.
c'est, si oui, on
oui.
dit ça
oui,
finalement.
Oui, si, si, oui,
oui, parce que je pense que bien des écrits, bien des romans ouvrent des portes, justement.
Oui, 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 tout à fait. Oui. Et là, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur même du roman,
oui.
et qui pour moi a été quelque chose d'émouvant, parce que, une fois de plus, j'ai vu ce personnage de Viviane se déployer, alors qu'au départ, c'était simplement la compagne du narrateur. C'est un personnage qui n'était pas du tout destiné à prendre cette profondeur-là.
Mais elle s'est imposée.
Oui.
Merci. Alors, merci. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit donc de Retour à Opédette, dans la maison d'édition Le Temps, qui fait que je les encourage à lire cet ouvrage dès cet été, de Jean-Yves Lorichesse, avec qui nous allons continuer avec un livre très différent. Pas tout à fait quand même, parce qu'il y a un style malgré tout. Il s'agit des Noces rouges selon Bruegel. Alors là aussi, c'est un petit... La maison d'édition, moi, je suis épatée, je vous l'ai dit, Jean-Yves Lorichesse. Il s'agit des ateliers Henri Dougier. Je reconnais ma grande honte que je ne connaissais pas, alors que visiblement, c'est quand même une maison très importante, mais qui fait... c'est un travail d'artiste, déjà.
Oui, il n'y a pas du tout de honte à ne pas encore connaître les ateliers Henri Dougier, qui sont une petite maison assez récente, effectivement, qui a quelques années seulement. Mais Henri Dougier, lui, en revanche, est un grand monsieur de l'édition, puisqu'il a été, oui. Dans les années 70, le créateur, le fondateur de la revue Autrement et des éditions Autrement, oui. et qui a donc, il y a quelques années, vendu cette grosse maison. Et est reparti à l'aventure en créant cet atelier dans lequel il y a différentes collections, souvent tournées vers les questions de société ou les pays du monde. Et donc cette collection, le roman d'un chef-d'œuvre.
Ouais. Alors, très beau livre. Est-ce que vous pourriez décrire les couvertures, la couverture, la quatrième de couverture, l'intérieur même?
Alors, oui, c'est un joli travail de maquette pour cette collection, donc, qui a été créée il y a 2 ans et qui compte maintenant une douzaine de titres, je crois. Il continue à en sortir régulièrement. Et c'est une couverture à rabat, ce qui fait que sur la première de couverture, on a l'intégralité du tableau. Mais à l'intérieur, sur la deuxième de couverture, donc, mais qui se déplie avec le rabat, donc ça fait quelque chose de plus grand, on a un détail non, c'est le contraire, pardon. Sur la première de couverture, on a une partie du tableau.
Une partie, oui.
Sur la deuxième de couverture,
donc,
on a le tableau en entier. Et puis, à la fin du livre, sur la troisième de couverture, mais qui se déplie aussi avec le rabat, on a un autre cadrage.
Un gros plan.
Plus proche, alors un gros plan du tableau. Donc, en fait, on a comme ça différents angles de vue sur aux différents rapprochements par rapport au tableau présenté.
Et alors, il y a justement sur un rabat, certains tableaux ont cette étonnante capacité de nous réenchanter corps et âme, de mobiliser notre mémoire, notre imaginaire, notre émotion. Mais comment sont-ils nés? Voilà ce à quoi vous allez vous employer, nous expliquer comment sont nées les noces rouges, les noces rouges de Bruegel. Pourquoi Bruegel et pas Bosch? C'est une question pas très fine, je pense. Mais c'est vrai qu'on a tendance à les rassembler. Honnêtement, je préfère Bruegel. Hein, mais...
Alors, le Bruegel a été influencé par Bosch, hein,
oui,
qui est plus,
voilà,
un
quand
peu
même.
Plus ancien.
Oui.
Et donc, il y a certains tableaux de Bruegel qui sont des tableaux d'ailleurs terribles, hein, représentation de la guerre, représentation des enfers, etc., qui sont marqués par Bosch. Mais il y a aussi... des tableaux plus personnels, à mon sens, et qui sont plus importants de Bruegel, qui sont les grands tableaux de paysages, hein, les cycles des saisons en particulier, et puis bien sûr les grandes scènes paysannes, le repas de noces, la danse au village, etc., où là, Bruegel affirme vraiment sa manière proprement personnel.
Voilà. Et même une forme de bienveillance, pas pour tout le monde, mais quand même, hein, de joie de vivre.
Voilà, oui. Il y a quelque chose de beaucoup plus... Voilà. Je ne pense pas que j'aurais aimé écrire un livre analogue sur Bosch, que j'admire beaucoup, mais que je trouve en même temps terrible. Enfin, c'est oui. Voilà. Et en fait, j'avais publié il y a maintenant, je crois, 3 ans, 3-4 ans, un ouvrage, déjà, aux ateliers Henri Dougier, mais il n'y avait pas encore cette collection. C'est le premier ouvrage que j'ai publié chez les ateliers Henri Dougier, qui s'intitule « Les chasseurs dans la neige », et qui est une fiction autour d'un autre tableau, le grand tableau d'hiver de Bruegel. Et lorsque donc Henri Dougier a créé cette collection, il m'a sollicité, et après avoir un petit peu cherché sur quel peintre je voulais travailler, puisque l'idée, c'était effectivement d'imaginer une fiction documentée à partir d'un tableau, donc en montrant le contexte aussi dans lequel le tableau a été créé, mais en restant aussi dans la liberté de la fiction. Donc j'ai eu l'impression de ne pas en avoir fini avec Bruegel, qui est un peintre que j'aime énormément, et depuis longtemps. Je le rappelais d'ailleurs un petit peu dans Les chasseurs dans la neige. On m'avait offert un album, je devais avoir 14 ans, un album des chasseurs dans la de Bruegel, et je suis vraiment tombé amoureux de ce peintre, et il m'a accompagné toute ma vie. Donc il y a aussi quelque chose de très personnel dans mon rapport à ce peintre.
Alors, une courte pause musicale qui va accompagner justement notre visite de Bruegel.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, une danse pour les noces rouges selon Bruegel. C'est le titre de l'ouvrage de Jean-Yves Lorichès, édité chez vos ateliers Henri Dougier. Alors, je dirais que vous êtes un peintre en littérature. Vous arrivez à peindre par touche.
Oui, c'est vrai, je suis très visuel, en tout cas, ça c'est certain. Je vois ce que je raconte, je le vois. Alors, il y a d'autres sens aussi, mais enfin, la vue est quand même vraiment particulièrement importante. Oui. Et voilà, on m'a dit aussi parfois qu'il y avait quelque chose de cinématographique, ce qui n'est pas contradictoire du tout, d'ailleurs.
Oui, absolument.
Mais c'est vrai, oui, je suis un visuel.
Alors, il s'agit d'une noce, de noces. Il s'agit aussi de l'exécution au moment de la révolte des Gueux. Il s'agit du peintre dans son atelier. Et ce que je dis là, il s'agit des premiers chapitres. Et donc, on a trois regards différents sur trois thèmes qui vont coexister tout au cours de l'ouvrage.
Oui, alors c'était la difficulté à laquelle j'étais confronté, mais qui en même temps était aussi une liberté extraordinaire, c'est que sur Bruegel lui-même, on sait peu de choses. Oui. On sait peu de choses sur sa vie. On n'est même pas complètement sûr du village où il est né. On n'a pas de... Les témoignages, la petite biographie qui a été écrite sur lui, l'a été plus de 30 ans après sa mort, et elle n'est pas très fiable. En revanche, bien sûr, on a ses tableaux. On sait qu'il a fait un voyage en Italie très important pour lui parce qu'il en a rapporté des gravures. On sait effectivement qu'il a vécu à Anvers puis à Bruxelles. On sait aussi qu'il a été marié avec une jeune femme, Maiken, qu'il a eu deux fils qui sont devenus peintres eux-mêmes. Bon, donc il y a des éléments biographiques, mais vraiment minimaux, avec lesquels il est impossible d'écrire un roman. Mais en même temps, sa peinture nous parle beaucoup, sa peinture raconte énormément, en particulier, bien sûr, elle raconte la nature, les paysages, mais elle raconte toutes ces scènes paysannes. Donc elle nous laisse aussi deviner un homme sensible, qui a une empathie pour l'être humain, et en particulier pour les gens les plus simples, des campagnes, qu'il a connu certainement dans son enfance, même s'il n'est probablement pas, comme on l'a cru à une époque, un fils de paysan, parce qu'il est peu probable qu'un fils de paysan ait pu socialement à l'époque devenir un peintre. Mais il a une familiarité très grande avec ce monde-là. Et du coup, il me fallait aussi... Alors, je voulais essayer de reconstituer quand même, et d'imaginer en partie, parce qu'on n'est même pas sûr du commanditaire. Bruegel avait plusieurs mécènes, plusieurs commanditaires. Le commanditaire de ce tableau-là, moi j'ai imaginé que c'était Hans Frankert, qui était un banquier, qui était un marchand d'orfèvrerie, qui a effectivement acheté des tableaux à Bruegel et commandé des tableaux à Bruegel. Donc j'ai décidé que c'était lui. Mais on n'en est pas complètement sûr, mais peu importe, c'est une hypothèse. Et
ce qui est très intéressant aussi, c'est que chaque fois, c'est un regard que vous offrez au lecteur sur un type de métier, un type de sensibilité également.
Oui, c'est ça, voilà. Alors, ce qui est particulier dans ce roman-là, et même par rapport au Chasseur dans la neige, qui suivait davantage le tableau et son histoire, j'ai voulu à la fois raconter l'histoire du tableau depuis sa commande jusqu'à sa livraison, et même un petit peu au-delà dans l'épilogue, les circonstances dans lesquelles ce tableau va finir finalement à Vienne, chez les Habsbourg, hein, qui font venir le tableau des Flandres. Je voulais aussi enrichir le roman, justement pour aussi répondre à l'attente d'Henri Dougier, qui voulait aussi qu'il y ait une dimension aussi sur l'époque, sur le contexte.
Il y a un gros travail d'historien.
J'ai lu pas mal de choses sur les Flandres de cette époque. Oui. Et c'est une époque terrible. C'est l'époque de la domination espagnole. C'est l'époque
la fameuse révolte des gueux, qui est une révolte
à la fois aristocratique et en même temps populaire. C'est-à-dire, les aristocrates sont soutenus par le peuple
et exécutés contre
Philippe
II
et contre en particulier le duc d'Albe qui était l'envoyé de Philippe II pour mater la révolte des gueux. Donc c'est une période sanglante et on en trouve des reflets en particulier dans d'autres tableaux de Bruegel, comme par exemple le massacre des innocents ou le portement de croix, où on voit des cavaliers aux tuniques rouges, qui sont tout à fait anachroniques par rapport à la Bible et qui sont en fait des allusions aux gardes wallonnes qui étaient en fait les milices de l'Espagne et qui faisaient toutes sortes d'exactions dans le pays. Donc il y a ce contexte-là et puis il y a aussi tous ces regards, et ça c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, tous ces regards croisés finalement d'une dizaine de témoins Bruegel qui sont tous des personnages réels, qui ont existé, mais dont évidemment j'invente le témoignage à partir pour le coup des informations que j'ai pu trouver chez les historiens.
Oui, voilà. Alors bon, c'est vrai que se dégage de cet homme une impression de sérénité, de bienveillance sur les hommes, et c'est vrai qu'il regarde cette noce avec une sorte d'aménité, parce que on les voit heureux. Alors, est-ce qu'on va dire pourquoi on parle de noces rouges ? Alors, évidemment, le rouge, on pourrait dire, c'était une couleur qui existait, mais une couleur qui... Il y avait beaucoup de marron, en principe. Il y a le sang. Il y a également, justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a toutes ces exactions de la part d'un pouvoir.
Alors là, je reconnais que c'est un petit peu, de ma part, une extrapolation, une hypothèse de romancier. Hein. Les historiens de l'art sont, la plupart d'entre eux en tout cas, d'accord avec l'idée que le rouge dans le portement de croix ou le rouge dans le massacre des innocents est en rapport, en relation avec les circonstances tragiques du temps et avec la violence des temps. Et c'est vrai que j'ai constaté que dans le repas de noces, il y avait aussi une grande présence de ce rouge. Et c'est par une sorte de superposition dans mon esprit de ce tableau avec ces autres tableaux plus tragiques de Bruegel que j'ai fait l'hypothèse que peut-être derrière effectivement la fête, derrière la joie de vivre paysanne, sachant que les campagnes étaient aussi, à l'époque de Bruegel, donc victimes de ces exactions des milices wallonnes à la solde de l'Espagne, que peut-être derrière il y avait aussi comme un écho de la violence des temps, mais alors un écho beaucoup plus discret, évidemment, beaucoup plus ténu, beaucoup plus oblique que dans les tableaux plus violents que sont, oui, par leur thème même, le portement de croix ou le massacre des innocents. Et alors, ça a, oui, orienté effectivement, oui, du coup, l'histoire racontée.
Bien sûr. À travers le témoignage de tous ces personnages, y compris la belle-mère, les belles-mères, seul avis négatif de la part de la belle-mère. C'est vrai qu'on prend conscience de ce que vous appelez la porosité du temps. Hein. Il y a la mémoire, il y a l'évocation, retour en arrière, la pérennité également, il y a tout cela à la fois.
Oui, oui. Oui, alors tous ces personnages, je les écrive, alors tous les témoignages sont datés, et donc localisés d'un certain endroit où les personnages témoignent. Et ils sont tous postérieurs à la mort de Bruegel, qui est mort assez jeune. On ne sait même pas exactement de quoi, mais probablement de maladie. Et ils sont tous postérieurs. Et du coup, ça ouvre aussi... Alors, il y a deux temporalités. Il y a celle de l'exécution du tableau, bon, qui prend quelques mois. Et puis, il y a ce recul donc, que l'on a sur Bruegel par les témoignages des personnages, et puis qui ouvre aussi sur l'époque, et aussi sur... alors, et puis, il y a aussi la mémoire de Bruegel aussi, oui, sa mémoire d'enfance, oui, la mémoire, oui, de son voyage en Italie, et puis les témoins de son voyage en Italie, par exemple, un peintre qui l'a accompagné pendant ce voyage-là, et qui témoigne. Donc, tout cela se croise, et c'est vrai que ça constitue une forme assez différente de ce que j'ai pu écrire par ailleurs.
Et puis, il y a également ce que... Je suppose que vous l'avez supposé, mais je pense que c'est certainement la réaction de tout intellectuel ou tout artiste par rapport aux exactions commises justement par les troupes du duc d'Albe, le défi politique, le défi d'un humaniste, certainement.
Ça, tout à fait. Voilà, ce qui apparaît quand même, même si une fois de plus la pensée religieuse, philosophique de Bruegel ne peut être que l'objet de suppositions de la part même des historiens de l'art. Mais on sait qu'il était lié au milieu humaniste, ça c'est
bien
évident.
On
pense qu'il n'était pas protestant, mais il y avait en fait une proximité de fait entre les humanistes opposés aussi, bien sûr, à l'Espagne catholique, et les protestants, même si il y avait aussi des moments où ils s'éloignaient. Par exemple, chez les protestants les plus radicaux, il y a eu l'iconoclasme, où on détruisait des tableaux, etc. Et là, on peut bien supposer que Bruegel n'était pas favorable. Mais, disons, il y avait quand même une quête de liberté de pensée chez les humanistes. Et Bruegel avait des amis géographes, avait des amis latinistes, émérites, etc. Enfin, et c'était un homme extrêmement cultivé. Sa peinture le montre à tout moment. Donc c'était aussi un grand esprit. Comme, voilà, c'était Erasme n'était pas si loin
absolument.
Non plus. C'était un grand esprit de ce temps.
Voilà, on en parlerait bien encore. Voilà. En tout cas, un grand merci Jean-Yves Lorichesse.
Merci à vous, Monique.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit des Noces rouges selon Bruegel, donc paru aux éditions, aux ateliers Henri Dougier. Et puis également, donc, Retour en Opédette, toujours donc de Jean-Yves Lorichesse, bien entendu. Alors là, la maison d'édition, je commence à... Le Temps qui fait, évidemment, c'était Le Temps qui fait, également une belle maison d'édition. Un grand merci.
Merci à vous.